La Java des bombes atomiques. Mon oncle infâme bricoleur.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission de Stop Nucléaire Dromardèche. Dans la continuité de l'émission du mois d'octobre, nous abordons ce mois-ci les conséquences du réchauffement climatique et les impasses de la COP21 avec Daniel Tanureau, qui est un ingénieur agronome en Belgique. Et nous aurons également, en deuxième partie d'émission, en direct, les marcheurs de Fort-Calquier en route pour Paris. Ils sont à Die lundi, à Saillant mardi, jeudi à Valence, où nous les accueillerons, et vendredi 6 à Romans-sur-Isère, mais ils auront l'occasion de nous en reparler tout à l'heure. Mais d'abord et avant tout, nos billettistes et Georges, notre spécialiste de Fukushima. Vas-y, Georges.
Bonjour, chères auditrices et auditeurs. Je vais vous donner quelques nouvelles de Fukushima, toujours tirées de Fukushima Blog. Alors, tout d'abord, M. Kawai a réalisé un film documentaire qui s'appelle Nihan to Genpatsu, qui veut dire « Le Japon et les centrales nucléaires ». Diffusé du 10 au 30 octobre 2015 dans une salle de cinéma du quartier de Shibuya à Tokyo. Ce documentaire, qui mériterait une diffusion nationale et d'être vu par tous, apporte une vision claire des événements de Fukushima et du fonctionnement du village nucléaire japonais, qui a ses ramifications dans 60% des organes et administrations du pays et achète le silence des collectivités locales via des subventions.
Et aussi, tu veux nous parler de Cécile Azanouma, Brice, que nous avons déjà interviewé l'an dernier et qui vient de me faire une nouvelle enquête.
Voilà, avec ce nouvel article, Cécile, sur cette dernière enquête épidémiologique relative à l'exposition à de faibles doses de radioactivité et sur les recherches médicales menées à Fukushima après l'explosion de la centrale en mars 2011. Donc cette enquête, sans surprise, ce n'est pas la première étude sur le sujet, confirme que les faibles doses de radioactivité augmentent le risque de mort par leucémie. On apprend également qu'une étude scientifique japonaise confirme un taux de cancer de la thyroïde de 20 à 50 fois plus élevé à Fukushima que dans le reste du pays. Par ailleurs, l'article indique 64 décès d'ouvriers ayant travaillé à la centrale nucléaire de Fukushima depuis 2011, alors TEPCO n'en dénombre que 14 officiellement. Malgré les évidences, les autorités et l'opérateur continuent de nier les effets sanitaires désastreux de la catastrophe de Fukushima et de l'utilisation de l'énergie nucléaire en général.
Et c'est pourquoi le nucléaire repart au Japon.
Eh bien, c'est ce que le gouvernement souhaite faire de manière totale. Donc, malgré l'hostilité de la population, un deuxième réacteur nucléaire a redémarré le jeudi 15 octobre au Japon dans une certaine indifférence. Il s'agit de la tranche numéro 2 de la centrale Sendai, installée à Satsuma Sendai, dans le département de Kagoshima Sud-Ouest. Ce redémarrage a peu été couvert par la presse et le gouvernement du Premier ministre Shinzo Abe. Et le Premier ministre n'en a guère parlé. La relance du nucléaire, toujours impopulaire, fait pourtant partie de ses priorités. Certains des 42 réacteurs encore en service pourraient redémarrer dans les années à venir. Le numéro 3 de la centrale Ikata, dans le département d'Ehime Ouest, pourrait être le prochain, même s'il a été bâti à proximité de la ligne tectonique médiane du Japon.
Alors, tu voulais nous dire un petit mot également sur EDF, la Grande-Bretagne notamment, et les annonces d'EDF, très rapidement.
Bon, j'y reviendrai la prochaine fois, dans un futur billet où j'expliquerai en long et en large et en détail la stratégie d'EDF, voilà. Il s'agit d'une commande par la Grande-Bretagne à EDF de deux réacteurs EPR pour un coût de 25 milliards sur 10 ans. Donc EDF construira donc deux réacteurs nucléaires de nouvelle génération EPR en Grande-Bretagne avec les Chinois. Cet accord a été signé le 21 octobre lors de la visite du président chinois à Londres. C'est le site d'Hinkley Point au sud-ouest de l'Angleterre. Et c'est la première commande de réacteurs nucléaires en Occident depuis la catastrophe de Fukushima.
Et voilà, et on reviendra sur ces affaires d'EPR quand on sait comment fonctionne l'EPR de Flamanville. Je pense que tu auras l'occasion de développer.
Bon. Voilà.
Je te remercie beaucoup, Georges.
Tout à fait.
Et bien maintenant, notre deuxième billettiste qui est en train de s'affairer autour de son micro, Vanessa qui va nous reparler, bah, du coup, parler un petit billet COP21.
Un petit rappel. COP21 et nous, citoyens, point d'interrogation. Doit-on se reposer sur les grands décideurs politiques et à quel endroit notre responsabilité individuelle se situe-t-elle ? Nous, citoyens, consommateurs et contribuables, comment agir ? Notre force, c'est de pouvoir choisir. Oui, bon, tout est relatif, je vous l'accorde. Sauf que quand même, l'urgence nous concerne tous. Vous l'aurez compris, donc je vais évoquer la COP21. D'ailleurs, ça veut dire quoi, COP ? En fait, c'est tout simple. Hein. La COP21 sera la 21e conférence sur le climat qui aura lieu à Paris, d'où le CO de conférence et le P de Paris. Et le 21, parce que ce sera la 21e fois que les parties à la Convention des Nations Unies se réunissent autour de cette question vitale. Il s'agit donc d'une des plus grandes conférences climatiques jamais organisées. Elle aura lieu du 30 novembre au 11 décembre de cette année, donc très prochainement. 40 000 participants, des représentants des pays du monde entier, des observateurs, des représentants de la société civile et des lobbies. Pour quel enjeu colossal, point d'interrogation ? Eh bien, l'objectif est d'aboutir à un accord universel et contraignant pour tenter de limiter le dérèglement climatique, accélérer la transition vers des sociétés et des économies sobres en carbone et contenir le réchauffement global de la température sur Terre à 2 degrés. Cet accord devra être réévalué tous les 5 ans pour diminuer toujours plus nos émissions de gaz à effet de serre. Selon Corinne Lepage, soit la COP21 aboutit à quelque chose de sérieux, soit il faudra une autre façon de lutter. Nous ne pouvons pas continuer à nous offrir des conférences aussi coûteuses, 100 milliards de dollars, pour ne déboucher sur rien du tout. Ce à quoi elle ajoute, la pression publique doit agir, c'est au niveau de la société civile, dans les synergies entre citoyens, entreprises, collectivités locales, que les changements s'opéreront. Rien ne se fera sans les citoyens. Or, 135 ONG et associations de 7 pays différents comptent agir à l'intérieur et à l'extérieur de la conférence. C'est la coalition climat. D'ailleurs, deux journées mondiales sont d'ores et déjà organisées, le 28 novembre et le 12 décembre. Je pense qu'on vous en reparlera dans l'agenda.
Tout à fait, c'est prévu.
Voilà. Bon, mais laissons de côté un instant la COP21 et faisons un petit détour par 2004. Suite à l'ouverture à la concurrence en France du marché de l'électricité, EDF perd ainsi le monopole de la production d'électricité. Arrivent alors d'autres fournisseurs, et notamment Enercoop. Ces derniers n'utilisent ni énergie fossile, gaz, charbon, ni énergie nucléaire. Ils utilisent l'hydroélectrique, l'éolien, le solaire et la biomasse. L'électricité gravite alors par le réseau ERDF, mais provient exclusivement de la production d'énergie 100% verte. Enercoop est en plein développement. Cette société coopérative permet à des milliers d'abonnés de se fournir en électricité toute l'année et de participer ainsi au jeu de la concurrence. Alors aujourd'hui, Enercoop compte 24 656 abonnés et 100 producteurs d'énergie renouvelable. À l'origine d'Enercoop, diverses sociétés et associations, parmi lesquelles Biocoop, Greenpeace, la Nef et autres. Alors c'est une société coopérative d'intérêt collectif et c'est une nouvelle forme d'entreprise sociale qui s'inscrit dans le courant de l'économie sociale et solidaire et qui permet d'associer celles et ceux qui veulent agir ensemble dans un même projet. Dans l'organisation d'Enercoop, producteurs et consommateurs d'électricité ont les mêmes droits. Plus précisément, la coopérative est structurée en 6 collèges. Producteurs, consommateurs, salariés, porteurs de projets, partenaires et collectivités locales. Ils sont tous représentés au conseil d'administration. Dans chaque collège, les décisions sont prises sur le principe coopératif. Une personne égale une voix. Voilà, en quelques mots, je voulais vous présenter Enercoop, histoire de dire que, bah oui, il n'y a pas que la COP21, il y a aussi d'autres façons de militer, de faire des gestes citoyens. Changer d'opérateur n'est donc pas un geste anodin. Je vous invite pour plus d'informations à parcourir le site internet d'Enercoop et le mois prochain, nous vous expliquerons comment les énergies renouvelables ne seront demain pas plus coûteuses que celles offertes par le mix énergétique prévu par le gouvernement.
Eh bien, merci Vanessa. Je pense que tout le monde aura noté. Et maintenant, on vous laisse avec un petit intermède musical, Pierre Perret.
Un gentil docteur, une seringue à la main, disait au coureur, je te shoote pour ton bien. Le sponsor veut que tu sois la diva de tous les temps, mais que tu restes vivant jusqu'à la fin du contrat. Toi le champion, on te tue, car les dieux du stade ont faim. Ils se payent ta vertu, comme un saffron de putain. Ton épouse et tes enfants pleureront sur ton argent, mais tu seras mort par chance en gagnant le Tour de France. Un parfait coquin pilotait un pétrolier, avec des marins qui avaient jamais navigué. Sa poubelle pleine de fioul éclatait sur un rocher, se déversait dans la houle et le vieux de pleurnicher. Toi la mer, je te tue avec le bateau crevard d'un taulier corrompu qui court après les dollars. Je tords le cou à Neptune pour engraisser quelques porcs. Pour de misérables thunes, je m'en vais semer la mort. Un Anglais riait en vendant sans aucun mal les stocks aux Français de ses farines animales. Il disait, dans mon job, je vends du Creusfeld Jacob, ça pourrait s'additionner à votre sang contaminé. Toi Frenchy, je te tue, ça rapporte tant d'argent. Nous t'avons bien vendu nos poisons pendant 8 ans. Serait-ce parce que tu es trop bête ou tout aussi malhonnête que tu as acheté nos saloperies? Tu es comme nous aussi pourri. Les présidents fiers dans un bureau se partagent le ciel et la terre en distingué géophage. Les indices en riant, si on prend vos OGM, vous oublierez certainement nos usines cancérigènes. Toi planète, on te tue, les dieux de la consommation sont fort mères, il n'y aura plus de profit sans pollution. Nos patrons, la culture.
Eh bien, vous êtes toujours sur Atomic Mac et nous allons... c'est un petit différé de quelques jours parce que Daniel Tanuro est aujourd'hui sur la table d'opération. Donc, la parole à Daniel Tanuro.
Bonjour Daniel, tu es en Belgique. Alors, on a fait cet enregistrement quelques jours avant notre émission parce que tu m'as appris que tu étais opéré ce lundi. Donc, on espère que tout va se passer bien pour toi. Alors, tu es présenté dans un article d'Alternative Économique comme un ingénieur agronome et un écologiste marxiste. Tu as fondé l'ONG belge Climat et Justice Sociale et surtout connu pour nous en France, en tout cas, par un livre qui a fait beaucoup d'effets, qui s'appelle L'impossible capitalisme vert, qui est disponible aux éditions Découverte Poche. Alors, dans ce livre, tu abordes beaucoup de sujets qu'on n'aura pas le temps de voir complètement aujourd'hui. On espère qu'on va donner l'envie à nos auditeurs d'aller le lire, de courir après. Mais comment ? Oui, ce serait une excellente idée. Et la première question qui nous vient à l'esprit, sur laquelle on voulait que tu nous donnes un peu ton point de vue, c'est les climato-sceptiques aujourd'hui ont un petit peu perdu, comparé à Copenhague par exemple, un peu perdu de leur audience médiatique, mais ils existent toujours, et la contestation des données du GIEC sont toujours assez fortes. Alors, d'après toi, est-ce qu'on peut donner déjà une valeur à ces analyses qui sont faites par le GIEC? Et puis, deuxième question qui s'ensuit, c'est quels sont les conséquences de cette crise climatique sur la société humaine si on n'y fait rien d'après le GIEC et d'après toi-même?
Oui, ben, la crédibilité ou la fiabilité des rapports du GIEC, elle doit être modulée selon les parties du rapport parce qu'il y a 3 groupes de travail dans le GIEC. Il y a le groupe 1, c'est la science dure, la science du climat, c'est de la physique. Bon, tant qu'il n'y a pas de changement de paradigme scientifique, ça doit être considéré comme... approchant de très près la vérité vraie. Et puis, il y a le groupe de travail 2 qui porte sur l'adaptation au changement climatique, les impacts sociaux, écologiques, etc. Bon, alors là, c'est déjà moins objectif, disons, oui, objectivable. Il y a davantage de subjectifs, de prise de position politique ou sociale sous-jacente. Et puis, mais ça reste tout de même intéressant. Et puis, il y a le groupe de travail 3 qui est sur l'adaptation. Et là, bon, ben, c'est tous les scénarios qui sont concoctés par des économistes pour voir comment le système économique pourrait s'adapter internaliser les externalités, comme on dit, c'est-à-dire mettre un prix sur les pollutions pour que le système se corrige de lui-même. Et là, bon, c'est à prendre avec des très, très grandes pincettes. Donc, c'est difficile de donner un jugement catégorique. Le GIEC, c'est bon, le GIEC, c'est mauvais.
Oui, d'accord. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que malgré un certain nombre de critiques possibles sur ces travaux-là, des gens disaient que ces scientifiques avaient été plus ou moins censurés dans certains pays, voire même internationalement quand même. Il y a quand même eu quelques aspects comme cela.
Mais c'est-à-dire que je considère, mais bon, je ne suis pas climatologue, moi, hein, donc ma capacité sur le plan scientifique de contester tel ou tel aspect des analyses est limitée, mais je crois que tout ce qui ressort des projections sur l'évolution du réchauffement en fonction du volume de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère et des impacts sur les écosystèmes, tout ça, ça doit être considéré comme de la bonne science.
D'accord.
Même de la très bonne science. Alors, ce ne sont pas des prévisions, ce sont des projections. Hein. Donc, la nuance est importante. Je pense que ce sont de très bonnes projections. Par contre, quand le groupe de travail 3 du GIEC, qui est truffé d'économistes et donc truffé de néolibéraux, parce que le GIEC ne fait pas d'études, le GIEC n'a fait que compiler des études existantes dans les institutions universitaires, etc. Et quand ce GT3 nous tient des propos rassurants sur la possibilité de résoudre le problème en donnant un prix au carbone, au carbone fossile en particulier, ben ça, c'est à prendre avec beaucoup de précautions, comme je disais. Et là, il faut être très, très critique sur les hypothèses de départ. Mais je le répète, pour ce qui est de tout l'aspect expertise du réchauffement lui-même et de ses impacts sur les grands équilibres énergétiques du système Terre, ça doit être considéré comme la vérité pour autant que ça existe en science.
Alors, sans tomber dans le cataclysme, le catastrophisme, d'après toutes ces études du GIEC, qu'est-ce qui s'annonce pour les années futures si on ne fait rien? C'est-à-dire, si on continuait à produire comme aujourd'hui, quelles seraient les conséquences réelles? Parce que les gens, enfin la population entend beaucoup parler de tout cela, et on va en parler de plus en plus jusqu'à la COP à Paris, mais ce sont souvent des informations qui passent par le biais des grands médias, et elles sont relativement simplistes. Qu'est-ce qu'on peut dire si on ne bougeait pas, si on faisait rien? Qu'est-ce qui se passerait?
Mais c'est difficile de ne pas être catastrophiste. C'est vraiment difficile.
D'accord.
Moi, personnellement, je définis le catastrophisme comme un système de pensée qui prend les pires hypothèses dans chaque cas et qui en rajoute une couche pour vraiment faire peur aux gens. Et donc, de ça, j'essaye de me départir parce que c'est dangereux, parce que la peur est mauvaise conseillère. Elle obère le jugement rationnel. Mais la situation est véritablement extrêmement inquiétante. Si rien ne change, pour répondre très directement à ta question, au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le réchauffement à la fin du siècle pourrait être de 6 degrés Celsius. Il serait sans doute de 6 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle. Et ça voudrait dire, à terme, le terme est long, d'accord, j'y reviendrai. Ça voudrait dire à terme, pour ne prendre que cette conséquence-là, une hausse du niveau des océans qui dépasse 10 mètres. À terme, c'est quoi? À terme, ça veut dire dans les millénaires ou dans les deux millénaires qui suivent. Alors les gens peuvent dire, oui, mais ça, c'est dans très très longtemps, on va trouver une solution d'ici là. Mais que nenni, parce que une fois qu'un certain niveau de réchauffement a été atteint, et dans la mesure où on ne peut pas mettre la planète dans un congélateur pour la refroidir, les effets en termes de fonte des glaces et de dislocation des glaces sont irréversibles. Donc à une quantité X de gaz à effet de serre dans l'atmosphère correspondra inévitablement à un réchauffement Y, et au réchauffement Y correspondra inévitablement une hausse Z du niveau des océans. Il n'y a pas à tortiller par rapport à ça. Et quand je parle ici de hausse du niveau des océans, c'est parce que c'est un des aspects les plus spectaculairement frappants et qui est totalement irréversible à l'échelle humaine des temps. C'est-à-dire qu'il faut compter en dizaines de millénaires pour renverser ça. Mais à côté de ça, il y a d'autres effets beaucoup plus immédiats et tout aussi redoutables en termes de déclin de la biodiversité, réduction de la productivité agricole, multiplication des accidents, des phénomènes météorologiques extrêmes, les pluies violentes. Ben, vous avez eu le cas là, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il n'y a pas si longtemps, avec cet orage terrible, les cyclones, les tempêtes, les sécheresses. Voilà, donc. Et ça, c'est déjà en marche aujourd'hui. Hein. Donc, on a déjà gagné aujourd'hui 0,8 degrés de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle. Il est probable qu'à terme, ça signifie une hausse du niveau des océans supérieure à 1,50 m, et encore une fois, irréversible. Donc, on est là-dedans.
Oui, on y est déjà, en fait. On peut dire que ce réchauffement est déjà dedans.
La catastrophe est en marche.
Et c'est pour ça que là, les négociations s'engagent sur ne pas dépasser 2 degrés, alors qu'à la limite, on pourrait se dire ce serait ne pas dépasser la température qui existait auparavant. Non, on a déjà fait une partie du chemin, si je t'entends bien.
2 degrés, c'est probablement déjà des conséquences catastrophiques, encore une fois, un adjectif, c'est très subjectif.
Bah, on peut dire que Katrina, quand ça tombe sur les gens, c'est catastrophique, quoi.
Mais évidemment, voilà. Donc, il y a un lead author, un auteur responsable du chapitre hausse du niveau des océans du quatrième rapport du GIEC, c'est un Danois, qui s'appelle Anders Lieberman. C'est un monsieur absolument sérieux, pas un fantaisiste, pas un idéologue, et pas un bolchevique au couteau entre les dents. Lui, il estime que tout degré de hausse de la température par rapport à la période pré-industrielle impliquera à terme, donc à terme encore une fois, c'est le millénaire ou le millénaire et demi qui suivent, une hausse du niveau des mers de 2,30 m. Donc 2 degrés, ça signifierait alors pratiquement 5 mètres de hausse du niveau des océans. Et c'est tellement énorme que c'est inimaginable ça. Il y a 10 millions d'Égyptiens qui vivent en dessous d'un mètre d'altitude. Il y a des dizaines de millions de Bengalis, de Chinois, de Vietnamiens, d'Indiens, d'Américains, d'Africains dans le delta du Niger, donc d'Hollandais, hein, même de braves Hollandais fortunés d'un pays capitaliste qui se porte très bien. Donc voilà, c'est devant ça qu'on est, et les décisions des gouvernements sont totalement, je dirais, en dessous du niveau de ce qu'il faudrait faire, mais de très très loin.
Pas fier d'être ce que
Vous êtes toujours sur Atomic Mac. Nous sommes toujours avec Daniel Tanureau. Nous parlons du climat, du GIEC. Abordons un peu l'autre sujet, un peu de ton expertise et de ton livre. C'est la campagne aujourd'hui de la Coalition 21 dit « Changeons le système et pas le climat ». Le problème, c'est qu'il ne donne pas de nom ni même de qualité au système. Là, on peut dire que la majorité des économies étant de type capitaliste, c'est le système capitaliste qui essaye de trouver des solutions. Est-ce que ce système capitaliste peut amener des solutions à cette crise climatique?
Selon moi, non. Pour moi, non.
C'est une réponse très simple.
Du bouquin dont tu as aimablement fait la publicité, je te remercie. Mais il y a deux raisons. Il y a une raison générale qui est que, en fait, ce problème du changement climatique est une illustration du problème plus global de l'incapacité du système capitaliste à respecter les limites des écosystèmes, les limites des ressources, etc. Et c'est un truc assez basique, tout le monde peut comprendre. Le système capitaliste implique la croissance. Comme disait Schumpeter, un capitalisme sans croissance est une contradiction dans les termes. Tant qu'il y a de la main-d'œuvre à exploiter et des ressources naturelles pour servir d'input à la production dans laquelle la main-d'œuvre est exploitée, le capitalisme exploite l'un et l'autre. Il n'y a pas d'indicateur interne, il n'y a pas de mécanisme interne au capital pour dire stop, il y a danger. Et donc, il y a une tendance naturelle du système à dépasser les limites des ressources et du fonctionnement des écosystèmes. Donc ça, c'est la raison générale. Et plus particulièrement dans le cadre du réchauffement, il y a cette donnée qui a été révélée par l'ONG Carbon Watch il y a quelques années maintenant et qui est maintenant très largement admise, c'est que si on veut ne pas dépasser, rester en dessous de 2 degrés Celsius de hausse de la température, il faut que 4/5 des réserves connues de combustibles fossiles ne soient jamais exploitées. Or, ces réserves, elles appartiennent à des États capitalistes ou à des multinationales capitalistes. Elles figurent à leur bilan, dans la colonne des actifs. Donc, si on leur dit « vous n'exploitez pas ça », ça veut dire qu'on leur demande de détruire du capital, de renoncer à la valorisation de ce capital. C'est des choses que ces groupes refusent de faire. Et comme il s'agit de groupes extrêmement puissants, économiquement et politiquement, plus puissants que des États, ça c'est les grandes multinationales du pétrole, du charbon et du gaz, ils ont le pied sur le frein, évidemment. Et ils n'accepteront éventuellement de laisser une partie de ces réserves dans le sol que si, en compensation de cette bulle carbone qu'il faudra faire... C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est une belle image. En compensation de cette bulle carbone qu'il faudrait faire exploser ou faire péter, ils aient l'assurance qu'ils ne perdent pas ou pas trop de pognon. Et donc, on aurait un mécanisme du type de la bulle financière de 2008, c'est-à-dire où c'est les populations qui payent la note.
Qui payent la note dans l'affaire.
C'est ça la donne fondamentale du problème.
On voit la façon dont d'ailleurs ils sont même assez heureux aujourd'hui du réchauffement parce que ça ouvre de nouvelles voies maritimes et ça ouvre de nouveaux gisements de pétrole et de matières premières.
C'est normal dans le cadre du système capitaliste. Vive la catastrophe, ça crée de l'emploi, ça crée des marchés. Vive les destructions, il faut reconstruire. Alors
si on dit que ce système économique nous mène obligatoirement à l'échec, d'une certaine façon, on peut se poser quand même des questions sur les autres perspectives économiques, notamment, on pense, et ton livre ouvre le débat là-dessus, au socialisme, c'est-à-dire un système qui n'est pas fondé sur les lois du marché. Le problème, c'est que les expériences socialistes, entre guillemets, qui ont existé auparavant, étaient elles aussi extrêmement productivistes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un début de pensée dans la gauche sur justement être à la fois écologiste et à la fois socialiste?
Oui, il y a un début de pensée, il y a même plus qu'un début de pensée, mais je crois que sans vouloir absoudre les tentatives anticapitalistes du passé, il faut tenir compte tout de même. Pour ne pas faire d'anachronisme, il faut tenir compte du contexte historique et social de différentes époques et des pays dans lesquels ces tentatives ont été menées, qui étaient en général des pays qui même extrêmement arriérés du point de vue socio-économique. Donc alors ceci dit, je le répète, ça n'absout pas les penseurs du socialisme, de leurs défauts productivistes qui sont assez incontestables. Mais bon, voilà, maintenant nous sommes confrontés devant une nouvelle situation historique mondiale où, où il faut vraiment changer de paradigme, parce que l'idée qu'on puisse partager autrement les fruits de la croissance est une idée qu'il faut vraiment ranger au rayon des accessoires dangereux qui contribuent à la catastrophe. Il faut casser au contraire la croissance et il faut donc l'accent est davantage mis sur le partage et la distribution. Il faut même une relative décroissance, pas au sens philosophique un peu fumeux que certains y donnent, mais au sens d'une réduction de la production matérielle et des transports. C'est devenu une condition sine qua non pour réussir la transition énergétique, et notamment pour tenir compte du fait que, afin de réussir cette transition, il faut faire d'énormes investissements qui vont être eux-mêmes générateurs d'émissions et que ces émissions doivent être compensées. Mais oui, je pense qu'il y a une pensée qui va dans ce sens-là, hein, c'est la pensée qu'on appelle écosocialiste, donc il existe certes différentes déclinaisons, différents courants politiques, mais c'est quand même l'idée, il faut tenir compte de l'écologie, des besoins écologiques, pour ainsi dire, dans la satisfaction des besoins sociaux.
Cela dit, l'urgence de cette crise climatique mondiale impose de fait, non pas d'attendre une révolution hypothétique, mais en tout cas nous impose de penser un changement de société, non pas seulement dans un seul État, mais là pour le coup bien internationalement, parce que on se rend bien compte que les pays riches devront faire beaucoup plus d'efforts, et les pays développés devront faire beaucoup plus d'efforts que des pays qui sont en voie de développement, que eux ont besoin de construire des routes, besoin de construire des logements, etc. Donc c'est quand même une pensée économique nouvelle, mais qui doit aussi être internationale.
Oui, absolument. Bon, c'est clair que la solution, en fin de compte, la solution est globale, mondiale, et nécessite, un système écosocialiste achevé au niveau international. Bon, ceci dit, les efforts des pays développés, il ne faut quand même pas pousser le bouchon trop loin. Enfin, je veux dire, on supprimerait déjà tous les gaspillages énergétiques qui sont inhérents à l'absurdité capitaliste et on atteindrait pratiquement la moitié de l'objectif, hein, en particulier tous ces transports complètement abscons qui sont le produit de du système capitaliste mondialisé et puis tous ces doublons qui sont le produit d'un système de concurrence. Et puis toutes ces crises périodiques de surproduction où on jette quantité de trucs à la décharge. Il ne faut pas donner une image non plus catastrophiste de ce que la transition impliquerait dans les pays capitalistes les plus développés. Des efforts à faire, certes, mais je dirais aussi beaucoup de joie et beaucoup de possibilités nouvelles d'émancipation et des possibilités nouvelles de réalisation des potentialités de l'être humain, de la créativité de l'être humain.
Alors ça, c'est un message qui touchera assez bien dans des régions comme la nôtre, la Drôme ou l'Ardèche, où il y a plein d'expériences locales, justement, à la fois de revenir au local pour la production, mais aussi d'expériences de déconsommation. Et c'est, je pense, effectivement, peut-être une des solutions. Donc si on t'entend bien, un socialisme écologique international, de fait, qui changera un peu la donne, est-ce qu'on peut considérer que ce mouvement est en construction ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'y a que dans les pays développés qu'on a cette pensée, ou est-ce qu'on voit, alors on l'a vu par exemple au Pérou, on l'a vu en Bolivie, en Équateur aussi, un certain nombre de présidents qui ont engagé des réformes sociales et écologiques, ça se développe dans d'autres pays du monde ?
Je dirais que d'une manière générale, les acteurs sociaux qui sont en pointe dans une conception de la transition qui soit de type écosocialisme, même si ils ne se réclament pas du concept de l'écosocialisme, hein, mais les acteurs sociaux qui sont plus en pointe, ce sont les peuples indigènes et les paysans, via Campesina en particulier. Et comme ces deux acteurs sociaux sont les plus nombreux dans les pays du Sud, ben, on arrive à cette conclusion que c'est dans les pays du Sud que la conscience de cette problématique de type écosocialiste, je le répète, même s'ils ne se réclament pas du concept, c'est dans ces pays-là que la conception est la plus avancée et que les pratiques sociales sont les plus avancées. Il y a quantité d'expériences de réappropriation des terres, de lutte contre l'agro-business, d'expériences de développement d'agriculture paysanne, de proximité, etc. Beaucoup plus avancées que dans nos pays. Et en fait, dans les pays capitalistes développés, le problème principal, c'est comment convaincre le mouvement ouvrier organisé, le mouvement syndical, les travailleurs salariés du secteur industriel ou autre, que eux aussi doivent s'engager dans cette transition. Et ça, c'est un véritable défi. C'est compliqué, il ne faut pas se cacher la difficulté, parce que chaque travailleur dans une entreprise capitaliste industrielle est confronté à cette situation que pour garder son gagne-pain, c'est-à-dire son emploi, ben, il est contraint d'obliger que son patron ait suffisamment de marché et suffisamment de débouchés, c'est-à-dire que la croissance est au rendez-vous. Donc, oui, je dirais, nous devons plutôt apprendre des pays du Sud, apprendre de ce qui se passe en Philippines, apprendre de ce qui se passe au Pérou, dans la lutte contre les projets miniers de Cajamarca, ou autres, apprendre des peuples indigènes, apprendre des mouvements paysans, et essayer d'utiliser tout ce savoir qui est créé là-bas pour irriguer le débat sur la manière dont on peut transférer ça, mutatis mutandis, dans les luttes du mouvement ouvrier.
Eh bien, écoute, Daniel, je te remercie beaucoup. On te recontactera probablement un jour. Merci beaucoup encore.
Eh bien, merci. Merci à vous et merci aux auditeurs. Ciao.
Au revoir. Ciao. Eh bien, nous voilà revenus en studio après cet entretien avec Daniel de Tanuro, que nous remercions beaucoup. Et là, nous sommes en communication avec Sébastien. Sébastien, est-ce que tu m'entends?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Sébastien. Alors, je présente très rapidement, vous êtes démarcheur parti de Fort-Calquier, vous êtes dans la Drôme pour l'instant, vous étiez hier sur Luc-en-Diois, là je pense en approche de Die, et bah, assez rapidement, mais l'objectif de votre marche qui a pour destination Paris, c'est lequel?
Eh bien, c'est une marche sur la COP21 et pas pour la COP21.
J'imagine.
Donc la COP, c'est la conférence intergouvernementale sur le climat. C'est la 21e et globalement, mondialement, on n'a pas réussi à s'entendre pour prendre des mesures suffisantes pour éviter un dérèglement climatique trop important, parce que là, le dérèglement climatique est déjà acquis. Donc nous, on marche pour manifester notre protestation, pour dire déjà on n'est pas dupes et pour porter d'autres solutions.
Et vous profitez
et
de...
pour dénoncer. Oui, et dénoncer ce système capitaliste, en fait, c'est parce qu'on veut pas renoncer à ce système capitaliste qu'on en est là aussi.
Tout à fait. Et donc là, vous êtes démarcheur, vous rencontrez les populations, j'imagine. Comment ça se passe depuis que vous êtes parti de Fort-Calquier?
On marche tous les jours 15 à 25 kilomètres. En chemin, on porte notre message aux gens, avec les gens qu'on croise. Le soir, on est hébergé donc chez des gens qui ont les mêmes sensibilités parce qu'on en porte plusieurs et on organise des débats, des rencontres, des projections sur les différents thèmes qui sont connexes à ce problème.
Donc une marche, mais aussi des rencontres avec la population, quoi.
Oui.
Tout à fait. Et alors, bon, puisque cet entretien est très court, hein, puisqu'on a peu de temps là, mais vous êtes aujourd'hui lundi, je disais sur 10, votre agenda dans la Drôme dans les jours à venir?
Alors, le mardi soir, on est à 19h à Saillant, à l'Oignon, pour un repas partagé et un débat sur les médias libres. Donc, Radio Diwa sera représentée, ainsi qu'un journal satirique des Alpes-de-Haute-Provence, qui est la Canard Sauvage.
Oui, qu'on connaît
et,
bien.
Et jeudi soir, on est au Costoujour,
À Valence,
pour aussi un débat.
Et avec...
le lendemain... Oui, vas-y.
Oui, non, mais avec le lendemain...
Avec le réseau Sortir du Nucléaire. Avec le réseau Sortir du Nucléaire. Et le lendemain, on est à Romans, dans un squat qui vient d'ouvrir, donc en soutien, parce que le problème du logement est aussi un problème de propriété privée. On a énormément de logements et beaucoup de gens qui n'en ont pas, et les deux ne se rencontrent pas à cause de ce problème de propriété privée.
Eh bien, écoute, Sébastien, je te remercie beaucoup. On vous souhaite une bonne marche. On vous reverra et je pense qu'on fera peut-être un petit entretien un peu plus long avec vous jeudi soir à Valence. Merci beaucoup à vous et bonne marche.
Merci à toi, Dominique.
Salut. Eh bien maintenant, Annie, c'est à toi de nous parler de l'agenda. On va reparler de la COP21.
Eh bien, bien sûr, beaucoup donc d'informations tournent autour de cette fameuse 21e conférence des parties qui a lieu à Paris et dont Vanessa et Sébastien donc nous ont parlé durant cette émission. Les citoyens doivent faire pression et pour cela, ben, nous proposons quelques occasions. Alors tout d'abord, jeudi 5 novembre à 16h, rendez-vous à Valence, à la Halle Saint-Jean, occasion donc d'une étape des marcheurs de la coalition dont Sébastien donc vient à l'instant de vous parler. Au programme, un repas élaboré avec des légumes issus de semences paysannes, de jardins en vie, spectacle, échange avec les marcheurs. Plusieurs associations seront bien sûr présentes, comme Stop Tafta, La Seine et bien sûr Sortir du Nucléaire. Plus d'informations sur l'objectif des marcheurs, eh bien allez sur leur site marchesurlacop.org. Nous profitons aussi de l'antenne pour vous solliciter, car nous recherchons des hébergements ce 5 au soir pour les marcheurs arrivant à Valence. Nous avons besoin d'une dizaine de couchages. Alors, si vous avez une chambre dispo, eh bien, merci de nous appeler à SN2607 au 09 72 35 89 60. Et puis la COP 21, eh bien ça continue. Samedi 21 novembre, rendez-vous à 14h à Lyon, place Bellecour, où une marche est proposée pour faire entendre nos voix au démarrage de cette COP 21.
Samedi 28.
Oui, c'est pas le 21, c'est le 28.
Et mon petit papier dit bien 28, désolé pour le petit ombrage.
Et comme
donc,
ça, on a bien appuyé sur le 28.
28 à 14h, place Bellecour à Lyon. Il nous faut être très très nombreux et des départs groupés vers Lyon seront organisés. Là encore, nous vous invitons à rejoindre le blog de Sortir du Nucléaire. Mercredi 2 décembre à Valence, donc Stop Nucléaire organise une nouvelle causerie au café associatif Le Cause Toujours et le thème sera bien sûr toujours par rapport au climat et au nucléaire, les solutions alternatives à 20h. Et puis la COP se terminera et donc une grande manifestation de cette clôture est prévue le samedi 12 décembre à Paris. Nous vous en reparlerons dans la prochaine émission.
Et où on appellera à faire un grand pôle anti-nucléaire pour dire que le nucléaire n'est pas la solution.
Exactement. Donc retenez déjà le samedi 12 décembre. Et puis, comme tous les mois, bien, nous vous rappelons la réunion mensuelle de l'association Stop Nucléaire 2607. Elle aura lieu le lundi 23 novembre à 18h30 à Valence. Pour le lieu, bien, encore une fois, retrouvez-nous sur le blog puisque le lieu est un petit peu tournant. Tous les samedis matins, eh bien, place Porte-Neuve à Valence, à partir de 11h, entre 11h et 12h30, eh bien, vous pouvez rencontrer des adhérents et échanger avec eux. Un message un petit peu particulier aussi nous vient de la CRIRAD, et peut-être que certains d'entre vous sont intéressés. En effet, la CRIRAD cherche des bénévoles pour cueillir, pendant l'automne 2015, des champignons comestibles dans des zones situées dans les départements donc de l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et la Loire. Alors si vous êtes cueilleur de champignons ou si vous êtes intéressé par cela, contactez Julien Sirène à la CRIRAD. Et voilà, je terminerai en vous redisant de ne pas hésiter à aller faire un tour sur le blog alors, qui est intitulé SDN 2607, bien que notre association s'appelle Stop Nucléaire 2607.
Tout à voilà. Fait. Eh bien, merci Annie. Je rappelle que cette émission est animée par Stop Nucléaire, justement. Vous pouvez nous contacter au répondeur au 08 05 69 67 58. C'est un appel gratuit. Cette émission a été réalisée par Annie, Jean-Pierre à la technique, Vanessa, Georges, Jeanne qui nous avait préparé un petit billet mais que l'on a fait sauter pour avoir Sébastien au téléphone et Dominique. Et notre prochaine émission est le 7 décembre 2015. Nous vous souhaitons une bonne semaine, une bonne journée, une bonne semaine et nous vous laissons avec